Chapitre 22. Le soir venu, l'exposition se pare d'une autre atmosphère, sans doute parce que ceux qui n'y viennent que pour se montrer sont partis aussitôt les mondanités du jour achevées, mais aussi parce que les éclairages artificiels lui donnent un relief inédit. La science est désormais plus forte que la nuit. Il n'y a que les véritables curieux pour apprécier ce spectacle. La comtesse et Eustasio sont de cela. À la faveur de la pénombre qui s'étend, assurée de ne plus faire de rencontres importunes, Hortense s'autorise enfin à marcher serrée contre son homme. Ce changement d'attitude rassure bien plus Eustasio que n'importe quel serment d'amour. Ensemble, ils découvrent l'extraordinaire pavillon de l'électricité, un bâtiment assez vaste pour contenir un hôtel particulier et entièrement éclairé à l'aide d'une myriade d'ampoules aveuglantes, beaucoup plus lumineuses que n'importe quelle lampe à pétrole. Fleurs géantes et figures géométriques ont été agencées à l'aide des bulbes incandescents. Il faut se tordre le cou pour réussir à voir celles qui ornent le plafond et déversent leur pluie de lumière. Les générateurs qui les alimentent sont si puissants qu'il est impossible de se parler lorsque l'on se trouve près d'eux. Un panneau invite d'ailleurs à en faire l'expérience. En sortant, tout ébahie du miracle, Hortense entraîne son amant vers la fontaine lumineuse du sculpteur Coutan dans le jardin de l'exposition. La dernière démonstration avant la clôture du soir vient d'être annoncée à grand renfort de crieurs. La foule s'est massée autour du bassin à l'extrémité duquel un orchestre militaire entame les mesures d'une marche. Les premiers jets d'eau s'élèvent devant la monumentale sculpture, des silhouettes entremêlées surmontées par la déesse du progrès. Tout à coup, les voilà qui s'illuminent de l'intérieur et de différentes couleurs. L'assistance est saisie. Les figures formées par les flots projetés irradient jusqu'à ressembler à des cristaux précieux géants. Une colonne rubis, une cascade émeraude. Des orgues aquatiques s'élèvent et se parent de teintes surnaturelles. Des milliers de gouttelettes, semblables à des diamants, s'envolent dans la nuit avant de retomber dans les bassins où se mirent les statues. Ce sont plus de 300 jets d'eau qui s'illuminent d'or et de nuances changeantes. Le public s'extasie de plus belle. La lumière évolue au rythme de la musique. Le spectacle associe force et poésie en une alliance inédite. Pour Hortense, comblée, la journée s'achève comme le plus merveilleux des rêves. Après la tour Eiffel, les diamants du pavillon de l'Afrique du Sud et les admirables mosaïques arabes, elle n'arrivera certainement pas à dormir. Alors que la fontaine révèle de nouvelles figures, elle enroule son bras autour de celui de Eustasio. C'est la première fois que la comtesse s'autorise ce genre de familiarité dans un lieu public. Elle a toujours eu des gestes tendres envers son compagnon, mais jusque-là, elle ne les osait que dans le secret de son boudoir, où elle n'accueille d'ailleurs plus que lui. Surpris, il s'efforce de ne pas réagir. Pourtant, il y aurait de quoi, tant il est chaviré. Ce geste le touche soudain davantage que tous les enchantements que le savoir-faire humain expose devant lui. « Vous aimez ?» lui demande-t-il à l'oreille. « J'adore !» répond-elle en se serrant encore davantage. Ce qu'il aurait voulu avoir le courage de lui demander, c'est si elle l'aimait, lui. Il aurait rêvé l'entendre lui répondre qu'elle l'adorait. Mais sa question ne porte que sur le spectacle. Une lettre ou un mot de plus ou de moins peuvent tout changer. Eustasio a tenu beaucoup de belles femmes dans ses bras, des conquêtes. Mais en présence d'Hortense, il éprouve autre chose. Ce ne sont ni son titre, ni ses biens qui l'ont séduit. Il aurait pu en fréquenter de bien plus riches. C'est la personnalité de cette jeune dame qui l'a envoûtée. Lorsqu'il travaillait sur le chantier de son boudoir, il a tout de suite remarqué sa liberté de ton, la vivacité de son esprit. Madame de Vignolles n'a pas peur des hommes. Elle sait les cerner au-delà des apparences qu'ils se donnent. Elle peut faire preuve de la plus extrême fermeté comme de la plus grande douceur. Son secret réside sans doute dans ce remarquable sens du discernement dont elle ne se départit jamais. bien qu'elle le maîtrise, elle évolue en dehors du protocole en vigueur dans son milieu où tout n'est qu'étiquette. Eustasio profite du fait qu'elle est fascinée par la fontaine pour l'observer sans retenue. Les différentes lueurs colorent et redessinent son profil. Il aime sa peau au grain si fin, ses longs cils et les boucles de ses cheveux qui couvrent sa nuque, dont on devine cependant la noble courbure. Eustasio l'admire, et pas uniquement pour sa beauté. Une qualité l'a frappé lorsqu'il n'était encore que son artisan. Elle ne craint pas de dire qu'elle ne sait pas. Elle n'a jamais peur d'avouer son ignorance parce qu'elle est certaine d'avoir la capacité d'apprendre. C'est peut-être ce talent-là que Stasio apprécie le plus. L'Italien n'a jamais eu confiance en lui. Il sait pertinemment que, si son physique n'avait pas été aussi attrayant, sa vie aurait été différente. Il lui a fallu développer son art bien au-delà de ce que d'autres font pour que l'on remarque enfin davantage ce qu'il accomplit plutôt que ce qu'il paraît. Au moment même où les jets d'eau culminent dans les airs sur un temps fort de l'orchestre, Eustasio prend conscience qu'avec ses compagnons, il a eu beaucoup de chance de construire ce qui lui a permis de rencontrer celle qu'il a l'audace d'envisager comme sa bien-aimée. À la fin du morceau, après un bouquet final proprement féerique, l'eau retombe et le bassin s'apaise. L'orchestre a fini. La foule applaudit et se disperse. Le flot si vif et si lumineux l'instant d'avant n'est plus qu'une masse sombre à peine ondulante. Chacun prend le chemin du retour suivant son rang et ses moyens. Certains marcheront des kilomètres, les pieds déjà blessés par de longues heures à arpenter la foire. D'autres se paieront le luxe d'un fiacre. Les plus fortunés sont attendus par leur propre attelage. Pour éviter l'affluence, Eustasio a donné rendez-vous à celui de Madame de Vignolles derrière le quartier du Moyen-Orient. Rentrons, Hortense. La fraîcheur s'installe et je ne veux pas que vous attrapiez du mal. Alors que les badauds se dirigent vers les portes principales, le couple bifurque et disparaît entre des bâtiments égyptiens. Il passe sous l'arche finement ouvragée qui marque l'entrée de la rue exotique. L'atmosphère est soudain complètement différente. La voie est déserte et l'éclairage approximatif. Les nombreux balcons et les tentures suspendues créent un jeu de formes et d'ombres mouvantes. Les gens qui peuplaient cette représentation d'Afrique ont disparu. Hortense est encore dans l'euphorie de sa journée. Quel spectacle étourdissant, ne trouves-tu pas? È magnifico. Lorsque nous reviendrons, je voudrais aller visiter la galerie des machines. Une amie me l'a décrite comme épouvantablement bruyante et d'une violence mécanique absolue, mais je crois cette femme assez fragile pour ne pas en avoir saisi l'intérêt. Nous irons où vous le désirez. Demain? Je dois travailler, mais je peux me libérer pour vendredi. Je t'attendrai donc. Et si tu tardes trop, j'exigerai que tu viennes faire une retouche de plus dans mon cabinet secret. Elle l'embrasse en riant. La ruelle est de plus en plus sombre et la foule n'est plus qu'une lointaine rumeur. Ils sont seuls. Tout à coup, une silhouette surgit sur leur route. Elle est rejointe par une seconde, puis une troisième. Les prenant pour des gardiens de l'exposition, Eustasio se justifie. « Bonsoir, messieurs, n'ayez aucune inquiétude, nous ne faisons que rejoindre le fiacre de Madame la Comtesse qui nous attend plus loin. » Aucun des inconnus ne bouge. Le premier répond simplement « Nous ne sommes pas inquiets, c'est toi qui devrais l'être. » Le ton est glacial et la menace palpable. Eustasio s'interpose aussitôt devant Hortense. « Nous n'avons pas d'argent sur nous, lance-t-il, et je vous conseille de laisser la signora en paix. Prenez garde. » Deux des inconnus éclatent d'un mauvais rire. Celui qui a déjà parlé ne bronche pas. Son attitude est de loin la plus préoccupante. L'Italien commence à se dire qu'il ne s'en sortira pas sans se battre. Qu'importe, il fera face. Il est en forme et l'idée qu'on puisse s'en prendre à Hortense décuple sa combativité. La jeune femme ne comprend pas ce qui se joue. Eustasio veille à la maintenir dans son dos pour la préserver de ses mécréants. Après avoir vérifié que la retraite n'était pas coupée, il lui souffle. « Fuyez, bellissima, courez jusqu'à l'allée centrale et cherchez-y refuge. Je vous protège. » Elle reste agrippée à lui. L'homme qui paraît être le chef exhibe soudain un poignard. Ce n'est pas elle qui a besoin de protection. On se fiche de ta poule. Eustathio proteste. Comment osez-vous parler de... L'homme le charge directement. Eustathio esquive la lame de justesse et arrive à lui asséner un coup de poing au passage. Le combat n'est pas son domaine de prédilection, mais sa vivacité lui donne encore quelque avantage. Surprise par la hargne de l'assaut, Hortense pousse un cri. Elle recule. Les deux autres attaquent à leur tour son bien-aimé. Il les repousse tant bien que mal et distribue autant de coups qu'il le peut. Malgré sa maladresse, certains portent. Ce sont maintenant trois couteaux qui le harcèlent. « Laissez-le tranquille !» hurle la comtesse. « Prenez mon collier et partez !» Elle le détache et le leur jette, mais les hommes n'en ont cure. Ils ne changent pas de proie et multiplient les attaques. Eustathio est déjà entaillé au bras et au flanc. Il se contorsionne comme il le peut pour échapper à leurs élans. Même si reprendre le dessus est impensable, il ne fuira pas. « Vaut rien !» s'écrie Hortense. « À l'aide, brute, laissez-le !» Elle vocifère, prête à se jeter dans la bataille, mais elle n'en a pas le temps. Eustathio vient de recevoir un coup plus sérieux. Il titube en s'agrippant la poitrine avant de s'effondrer à terre. Hortense hurle de toutes ses forces et sans réfléchir s'élance vers lui. Sa chemise est tachée de sang. La terrible marque s'étend rapidement. La jeune femme tente de redresser son homme et le serre dans ses bras. Les trois agresseurs observent le résultat de leurs œuvres sans état d'âme. L'un d'eux maugré, je crois qu'il a son compte. Ils n'ont pas le loisir de vérifier. Un coup de sifflet retentit dans la nuit. Deux gendarmes arrivent en courant depuis l'entrée principale. « Que se passe-t-il par ici ?»«
Au secours !» gémit Hortense, la voix brisée.
Les trois agresseurs prennent la fuite.
« Halte là !»
crie un gendarme. Mais ces gens-là ne s'arrêtent pas quand un agent le leur demande. Ils ont déjà disparu.